Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
On parle beaucoup en ce moment, de plus en plus, de reconversion professionnelle. Il y a sans doute un domaine dans lequel c'est particulièrement possible. On va le voir d'ailleurs aujourd'hui.
Et on parle aussi beaucoup du développement de l'immobilier, c'est le cas, effectivement, où tout d'un coup, effectivement, des possibilités de reconversion sont envisageables, pas n'importe comment, pas par n'importe qui. Et c'est ce qu'on va pouvoir écouter aujourd'hui avec le témoignage de Paul Pereira.
Oui, bonjour Paul Pereira.
Oui, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Sud Radio, directeur groupe d'agence Century 21 en région parisienne dans le 93. Vous cherchez notamment pas mal de commerciaux, c'est ça en ce moment?
Oui, alors on lance une grande campagne de recrutement, même si le recrutement est permanent, qui n'est pas débuté le 21 janvier. Effectivement, on recherche beaucoup de commerciaux.
Quel profil en particulier? On parlait de reconversion professionnelle, ça peut être notamment sur certains profils quelque chose d'attendu.
Oui, alors c'est-à-dire que l'immobilier était en plein essor, on a vu affluer grâce aux aides de l'État beaucoup de jeunes, à la fois pour permettre aux employeurs de recruter, mais également parce que l'immobilier est un marché en recrutement porteur. Ouais. Mais je trouve malgré tout dommage de pas avoir un peu plus de candidats issus d'une deuxième carrière ou troisième carrière professionnelle venir tenter leur chance dans nos agences.
Et pourtant, il y a des possibilités, justement. C'est finalement quelque chose à tenter, quoi.
Je pense que c'est quelque chose à tenter parce que les qualités intrinsèques d'un commercial, on les connaît. Mais quand vous avez une expérience de vie, vous avez déjà vécu la même situation que le client que vous avez en face de vous. Vous connaissez comment ça se passe, les petites angoisses, les papillons dans le ventre, pardon, ou autre. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui envisagerait une reconversion professionnelle dans le métier de commercial dans l'immobilier, je pense que ce serait un très bon choix.
Vous savez pourquoi justement il y a un peu de difficultés pour les personnes en deuxième ou troisième reconversion de se lancer un peu dans l'immobilier? Ça fait un peu peur?
Alors, ça fait un peu peur parce que quand vous êtes dans un emploi classique, j'ai envie de dire qu'un statut de salarié, effectivement, partir peut-être sur un métier ou une partie de la rémunération ou l'actualité parfois peut être issue de commission, ça peut effectivement avoir peur de cette manque de stabilité ou de situation, mais au contraire, vous avez un vécu, vous avez une expérience de vie, vous avez une culture générale qui fait qu'en réalité, vous allez pouvoir être plus vite actif et répondre plus rapidement et plus facilement aux attentes de vos clients.
Jérôme Laverny.
Alors moi, je bois du petit lait quand j'entends un employeur dire combien il est réceptif à des candidatures autres que celles de candidats de moins de 30 ans. Ouais. Et je pense que c'est d'autant plus vrai. Et alors, par symétrie, il faut dire autre chose aussi pour les jeunes. C'est vrai qu'un jeune qui se lance dans une alternance dans l'immobilier, pour les mêmes raisons que vient d'expliquer M. Pereira, c'est très difficile. Comment être commercial en ayant 18 ans, voire même 16 ans, en ayant cette grande faille d'expérience de vie qui, pour le coup, est immanquablement nécessaire dans la commercialisation d'un bien aussi fondamental que celui d'un logement.
Oui, c'est clair. C'est le problème. C'est le problème. Il faut avoir une maturité, au-dessus de la moyenne.
Est-ce qu'il y a une partie administrative au métier?
Alors toujours, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus on digitalise, plus on est administratif.
C'était pas ce qui était prévu.
Parce que la législation se compliquer un petit peu, les lois s'empilent un peu, il y a de plus en plus de démarches à faire, de documents à obtenir et autres, mais ça va dans le bon sens malgré tout pour protéger le consommateur, et c'est ça le plus important. Mais du coup, effectivement, il y a une partie administrative qui est pas négligeable dans notre activité.
Et par rapport à la crise sanitaire, on a un peu plus de visibilité, on sait que dans l'immobilier, c'était particulièrement sensible.
Alors la crise sanitaire, on l'a vu vraiment, les Parisiens, première couronne, les habitants des grandes villes, des hypercentres s'éloigner, c'est un fait, c'est véridique. Il y a eu l'envie au premier confinement et le passage à l'acte 12 mois plus tard. Malgré tout, l'immobilier en France est malheureusement un besoin compte tenu de la pénurie de logements. Donc l'activité en elle-même n'a pas été impactée par la crise sanitaire.
Paul Pereira, si on est intéressé, qu'on a envie de vous envoyer un CV pour les auditeurs de Sud Radio qui écoutent là et qui sont intéressés, on fait comment?
Il y a rien de plus simple. On se connecte sur le site century21.fr. Il y a un espace qui sera accessible à partir du 21 janvier qui s'appelle les meilleurs talents. Vous décrivez vos qualités et ça vous oriente ces propositions de postes qui peuvent correspondre le mieux à vos qualités.
Et ben voilà, en tout cas, merci à vous, Paul Pereira, donc directeur groupe d'agence Century 21 en région parisienne dans le 93. Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous.
Et merci à vous également, Jérôme Lavernier. Je vous dis à demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi.
À demain, Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Et il est à 6h23 sur Sud Radio. Bah oui, c'est le petit matin. On continue de se réveiller ensemble et on souhaite un bon anniversaire. Tenez à ceux qui sont nés un 24 janvier avec un centenaire qu'on célèbre aujourd'hui. Et celui de l'invention des Esquimaux et fameuses glaces sur bâtonnets. C'est un Américain, Christian K. Nelson, qui avait déposé le brevet donc le 24 janvier 1922. Et le succès des Esquimaux est toujours au rendez-vous. Plus de 3 milliards d'Esquimaux vendus dans le monde entier chaque année. Oui, ça fait un sacré chiffre. Allez, on garde l'Esquimau et je vous propose une petite séance de cinéma gratuite avec les anniversaires de plusieurs acteurs aujourd'hui. Alors, à vous de les reconnaître. Dans l'ordre, on a un acteur et une actrice toujours en activité. Et puis en troisième, un acteur qui nous a quittés en 2007, mais qui aura marqué des générations de Français. Je vous préviens, ça gueule un petit peu, en tout cas au départ.
Max, arrête de d'irructer, hein ! C'est pas parce que tu as la voix qui porte que c'est toi qui as raison ! Moi aussi, j'ai la voix qui porte ! Moi aussi, je peux gueuler ! Et beaucoup plus fort que toi ! Depuis que je te connais, ça fait 35 ans, je suis pas d'accord avec tout ce que tu racontes. Je fais semblant parce que j'ai pas envie de m'engueuler, hein ! Mais je suis pas d'accord ! Et plus ça va, plus ça empire ! Tu vieillis pas, tu t'aggraves !
Mais enfin, personne ne vous apprend à faire des nœuds dans vos écoles, là ? C'est quand même pas croyable ! Bonjour !
Bonjour. Voilà, je vais vous prendre une baguette, s'il vous plaît.
Ils sont marrants, ils nous disent de faire travailler les jeunes. Enfin, les jeunes, on sait pas bien s'ils ont envie de travailler, hein, aujourd'hui.
Moi, à son âge, on pourrait croire que c'était pas comme ça. Merci, au revoir.
Un vous remerciant.
Les médiocres se résignent à la réussite des êtres d'exception. Ils applaudissent les surdoués, les champions, mais... La réussite d'un des leurs, ça les exaspère. Elle les frappe comme une injustice.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Michel Serrault, qui aurait eu 94 ans aujourd'hui. Avant cela, on entendait, vous les avez peut-être reconnus. Au départ, c'était Daniel Auteuil, 72 ans aujourd'hui. Et puis Karine Viard, qui fête, elle, son 56e anniversaire. Alors, puisqu'on parle de cinéma, tenez, ce lundi, on célèbre également les 60 ans d'un film. Le film « Je l'ai Jim » de François Truffaut. Un film notamment connu pour cette chanson interprétée par Jeanne Moreau, souvenez-vous.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.
Et oui, le tourbillon de la vie, Jeanne Moreau dans ce film de Truffaut, chanson reprise, vous vous souvenez peut-être, en 95 à Cannes avec Vanessa Paradis. Très beau moment proposé par ces deux actrices. C'est l'occasion pour nous ce matin d'avoir une petite pensée pour Jeanne Moreau qui nous avait quitté il y a déjà bientôt 5 ans. Allez, 6h26 sur Sud Radio, le petit matin revient dans un instant avec les pronostics de Jean-Paul Delperrier, pronostics pour le Quintet. On aura aussi la météo avec Rémi André, le retour des infos et puis la vie en vrai. Vous nous appelez 0826 300 300, vous prenez la parole, vous avez la parole tous les matins sur Sud Radio. À tout de suite.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
et le quintet avec les préférés, les pronostics de Jean-Paul Delperrier qui est là. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Et on file aujourd'hui à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer.
Avec le prix du Languedoc qui nous est proposé en réunion une course au 3, départ comme tous les jours 13h50, 2000 mètres sur la piste en sable fibré, ils seront 16. J'ai choisi l'As Watchim en favori, ce concurrent vient d'effectuer une sortie très intéressante dernièrement. Devant le 9, Get the Power, 6, Aviasor, 8, Marjane, 13, Hilarand, en espérant qu'elle ne rigole pas. Le 10, Silo Secret, 5, Craps et 4, Rue des Irlandais. As, 9, 6, 8, 13, 10, 5 et 4. En sélection du jour à Marseille Vivo en réunion 3, course 4, avec le 7 Phoenix du Rabutin.
Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier. Vos pronostics à retrouver bien sûr comme toujours sur sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Et la météo avec Rémi André, bonjour.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Et c'est un beau mais frais lundi qui s'annonce.
Oui, c'est le cas de le dire, avec donc un temps hivernal. Nous avons quelques bandes de brume ou de brouillard ce matin, notamment du côté de Lyon, Vichy, mais également à Châteauroux, quelques bandes de brouillard au bord de la Garonne, mais ils sont plus rares que ces derniers jours. Donc tout cela devrait en grande partie se dissiper pour nous laisser une journée plutôt ensoleillée, même si par endroits, notamment près de la Manche ou sur les Hauts-de-France, on trouve encore quelques nuages. Mais globalement, donc c'est le soleil qui va dominer, il va dissiper les bandes de brume et les quelques nuages bas que nous avons également sur le pourtour du golfe du Lion. Mais avec lui, eh bien, les températures vont rester froides aujourd'hui. Nous avons donc des valeurs qui ont atteint les moins 9 degrés ce matin du côté du Puy-en-Velay. Il fait froid donc sur le Massif central et notamment sur une partie de l'Auvergne. Moins 3 degrés pour Clermont-Ferrand. Au pied des Pyrénées, nous sommes à moins 4 degrés à Luchon, mais les moins 4, vous les avez également du côté de Auch ainsi que de Mont-de-Marsan-Ry. Dans l'après-midi, eh bien, les températures sont bien hivernales, comprises entre 3 et 12 degrés.
Merci beaucoup Rémi André. Très bon réveil et excellent début de semaine avec Sud Radio. Dans un instant, la vie en vrai, il est à 6h30. Sud
Radio. Parlons vrai.
Et tout de suite, le retour de l'info avec le journal de Marie Dompère. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. L'étau se resserre autour des non-vaccinés. Désormais, un test ne suffit plus pour aller au resto ou au cinéma. Le pass vaccinal entre en vigueur ce matin. Encore un soldat français tué au Mali ce week-end, un drame qui refait surgir la question de la présence française au Sahel. Et puis notre planète étouffe sous le plastique, il n'y en avait jamais eu autant. Les mers et les océans en sont les premières victimes. Adieu le pass sanitaire et bonjour le pass vaccinal. C'est désormais lui que les plus de 16 ans doivent montrer à l'entrée des cinémas, musées et restaurants pour pouvoir entrer. Florian Pierrat, qu'est-ce qui change concrètement ?
Eh bien, terminer les tests antigéniques ou PCR négatifs, désormais ils ne suffisent plus pour obtenir votre pass. Seul un schéma vaccinal complet est valide. Cela signifie que pour la plupart des vaccins, vous devez avoir reçu au moins 2 doses. 3 à partir du 15 février si votre précédent rappel date d'il y a plus de 4 mois. Si vous avez contracté le Covid-19 il y a moins de 6 mois, vous bénéficiez également de ce pass vaccinal avec un certificat de rétablissement. Comme pour le pass sanitaire, le pass vaccinal est exigé dans de nombreux lieux culturels et de loisirs, les restaurants, les bars, les foires ou encore les transports publics interrégions.
Les transports où un test négatif reste toléré pour les voyages à motif impérieux d'ordre familial ou de santé. Sachez également que vous devrez payer 1000 euros si vous présentez un faux pass ou si vous êtes professionnel et que vous ne contrôlez pas vos clients. Un pass qui pourrait n'être plus qu'un mauvais souvenir dans les prochains mois. En tout cas, l'OMS se veut plutôt optimiste sur la suite de la pandémie. Le directeur de l'OMS Europe estime plausible que le continent se rapproche de la fin de la pandémie grâce à la contagion du variant Omicron qui entraînera une sorte d'immunité globale et grâce à la poursuite de la vaccination. Il est le 53e soldat français mort au Sahel depuis 2013. Alexandre Martin, du 54e régiment d'artillerie de Hyères dans le Var, a perdu la vie ce week-end dans une attaque au mortier contre le camp militaire français de Gao. Il avait 24 ans, 9 autres soldats ont été blessés. Un nouveau drame qui interroge sur la présence française au Sahel, véritable épine dans le pied d'Emmanuel Macron. car il n'est pas si facile de quitter le pays du jour au lendemain, Valentin Bonjean.
Oui, car même si la décision était prise aujourd'hui, il faudrait plusieurs mois pour quitter le Mali. Et ensuite, la France ne peut pas abandonner les pays voisins que sont le Burkina Faso et le Niger, très engagés dans la lutte contre les djihadistes dans le désert. Un départ de la France serait par ailleurs très mal vu, alors que le pays vient de prendre la tête de l'Union européenne et qu'Emmanuel Macron ne cesse de promouvoir l'Europe de la défense. D'ailleurs, les conditions fixées par le chef de l'État sont loin d'être remplies, notamment sur la tenue d'élections démocratiques en février. La junte ne veut pas en entendre parler et pourrait repousser ces élections à dans 5 ans.
Autre tension qui inquiète l'Europe, celle entre la Russie et l'Ukraine. Une réunion des ministres des Affaires étrangères a lieu aujourd'hui à Bruxelles. Objectif pour les pays européens, montrer leur unité et réaffirmer qu'ils n'hésiteront pas à prendre des sanctions contre Moscou si Vladimir Poutine choisissait d'intervenir en Ukraine. Retour en France, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui dans la Creuse pour présenter son bilan dans le monde rural. Il sera question notamment des zones blanches, du retour des services publics ou encore des déserts médicaux. Jean-Jacques Savin, toujours porté disparu, la marine portugaise a démenti hier avoir retrouvé le corps de l'aventurier français de 75 ans qui avait été annoncé mort pendant quelques temps. Elle explique qu'au cours de l'opération de sauvetage, les secouristes avaient eu de fortes raisons de croire qu'un corps pouvait se trouver à l'intérieur du canot, retrouvé à l'envers au large des Açores. Les recherches vont donc reprendre aujourd'hui. La quantité de plastique sur Terre est de plus en plus alarmante. La cinquième limite planétaire, celle de la pollution chimique, a été franchie. C'est ce que révèlent les experts du Stockholm Resilience Center. Un point de non-retour concernant certains aspects de la pollution, Jeanne Biard.
Oui, une pollution que l'on retrouve surtout dans les océans. Les images du continent de plastique, cet amas de détritus voguant sur le Pacifique, ont fait le tour du monde. Mais ce sont surtout les microplastiques qui inquiètent les chercheurs. De minuscules particules issues de la dégradation des déchets, on ignore encore leurs effets sur les humains. Ils ont pourtant de quoi inquiéter, puisqu'ils contiennent souvent des produits chimiques nocifs. Au sol et même estomac des poissons, on les retrouve pourtant partout. 8 à 14 millions de tonnes de microplastiques recouvriraient les fonds marins, bien trop pour que l'on puisse les ramasser.
En 2016, les humains ont rejeté 11 millions de tonnes de plastique dans les océans, un chiffre qui augmente chaque année et qui pourrait tripler d'ici 2040. Un mot de foot, Paris n'a pas tremblé hier soir. Le PSG s'est imposé 4-0 face à Reims en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Parisiens restent premiers avec 11 points d'avance sur Nice. Et puis on a appris la mort de Thierry Mugler. Le styliste nous a quittés à l'âge de 73 ans. Outre ses créations vestimentaires, il s'était aussi lancé dans la création de parfums. Selon son attaché de presse, le grand couturier avait des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine. C'est la fin de ce journal. Très bonne matinée avec Sud Radio.
Merci à vous Marie Dompère.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Et j'espère que vous êtes en pleine forme pour débuter la semaine. En tout cas, bon, on est là. Mais oui, fidèle au poste, toujours pour vous accompagner cette semaine sur Sud Radio avec Patrick Roger et Cécile Omnibus qui nous rejoindront, qui seront là. On les accueillera aux alentours de 6h50, donc dans quelques petites minutes. D'ici là, dans quelques instants, hashtag on en parle sur les réseaux sociaux. On parlera de la dernière petite phrase de François Hollande, plutôt surprenante. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis, curieux comme Rémi, on parlera de la science qui lutte contre les lobbies de la malbouffe. Mais d'abord, eh bien, on parlait de plastique, un problème du plastique dans le journal à l'instant de Marie Dompère. Eh bien, on en parle avec une belle initiative qu'on met en avant, initiative écologique, tout de suite dans La Vie en Vrai sur Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai.
Et oui, la vie en vrai, 0826-300-300. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, sur Sud Radio. Aujourd'hui, on reçoit Samuel Olichon. Bonjour.
Bonjour Benjamin.
Et bienvenue sur Sud Radio. Alors, pour vous présenter un petit peu, vous êtes le fondateur d'Another Way, notamment à l'origine d'un emballage alimentaire écolo. En quoi est-il écolo et durable, cet emballage qui s'appelle B-Wrap, Samuel?
Alors, c'est un emballage alimentaire à base de cire d'abeille qui remplace parfaitement en fait le cellophane, le film qu'on utilise pour couvrir des fruits, des légumes, mais également des couvercles. Et là, on est sur une solution qui est 100% naturelle, avec du coton bio, de la cire d'abeille, de l'huile de tournesol et de la résine de pin. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut le réutiliser une centaine de fois. Il est aussi facile d'utilisation. Et derrière, vous avez juste à le rincer avec de l'eau et le faire sécher et pouvoir le réutiliser ensuite pour couvrir directement donc les couvercles, les fruits, les légumes, le fromage, le pain. et ça permet de mieux conserver les aliments. Oui. Aujourd'hui, sur ce type de produit, on est, en termes de conservation, on gagne 1 à 3 jours de conservation par rapport au cellophane.
Ah oui, donc écolo et en plus un avantage sur le temps de conservation. Ça, c'est important aussi à noter. Bivrap, bi, donc pour l'abeille, effectivement, puisque vous en parliez à l'instant sur la manière dont c'est conçu. Vous le concevez où exactement, justement, cet emballage?
Alors, on le fabrique sur Marseille, dans un ESAT qui emploie des personnes en situation de handicap. Mmh. Donc les le rouer et on essaye effectivement de produire au plus proche pour l'ensemble de notre gamme de produits. Chez Another Way, on fabrique plein de petites solutions durables et pratiques pour remplacer les produits jetables du quotidien.
Mais vous avez plein d'initiatives là-dessus. Hein. Mmh.
Tout à fait, des éponges réutilisables, des savons vaisselle solides et demain également dans l'hygiène corporelle pour aider les gens à consommer de manière plus écologique, sans plastique à usage unique, mmh. et tout en gardant en fait les gestes du quotidien qu'on avait depuis longtemps. Mmh.
L'enjeu aussi, quand on veut justement avoir une démarche un peu écolo, c'est, si on dit souvent, ça coûte un peu cher. Comment on fait alors quand on démultiplie un petit peu ces initiatives pour que ça soit justement accessible au plus de personnes possible aussi? C'est quelque chose auquel vous pensez?
Tout à fait. Et par exemple, si on reprend le Bivrap, c'est un produit qui est économique. Alors oui, on paye plus cher au démarrage, mais ensuite, comme on l'utilise une centaine de fois, le coût de revient en fait est moins cher que si on achetait plusieurs rouleaux de cellophane. Mmh.
Vous avez d'autres idées, d'autres initiatives que vous allez mettre en place prochainement aussi?
Oui, tout à fait. Dès le mois de février, on rentre dans l'hygiène corporelle, donc dans la salle de bain, avec notamment des jets de douche et shampoings à pastilles, parce qu'on s'est rendu compte que sur les jets de douche ou shampoings, on avait 80 à 85% d'eau. Mmh. Et de l'eau, en fait, on en a tous chez soi. Et donc, l'idée étant d'avoir un contenant qu'on réutilise à chaque fois. On met la pastille, on met l'eau, on attend la nuit, et derrière, on a le produit comme tous les jours qu'on avait de jet douche ou de shampoing. Et ce qui fait réduire fortement l'impact CO2, parce que transporter des pastilles avec l'actif du produit, ça pèse pas grand-chose. Hein. Ça pèse 20, 30, 30 grammes. Et donc, on réduit de 85% l'impact CO2 et on n'a plus de plastique à usage unique.
Mmh. Génial. En tout cas, pour découvrir toutes ces initiatives, j'invite nos auditeurs de Sud Radio à aller consulter votre site. Ça s'appelle donc Another Way avec le tiré du 6 au milieu. Donc, another-way.com. Merci beaucoup, Samuel Olichon, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc, fondateur de Another Way, cette entreprise d'initiative écologique. Merci à vous et bonne journée.
Merci beaucoup. Belle journée.
Merci. Elle est 6h41. Une sur Sud Radio. Tout de suite, on fait le rejoindre Rémi André.
Sud Radio, curieux comme Rémi, Rémi André.
Curieux comme Rémi et comme la science contre les lobbies de la malbouffe, l'obésité, la sous-alimentation et le changement climatique. Trois mots qui menacent l'humanité qui doivent être combattus de manière globale car ils sont liés. Rémi, expliquez-nous pourquoi les scientifiques attaquent-ils les multinationales de l'alimentaire?
Vous venez de lire, obésité, sous-alimentation, changement climatique sont les trois facettes d'une même menace pour l'humanité et il faut les combattre globalement, assurent les spécialistes. Selon eux, les multinationales de l'alimentaire doivent être encadrées comme l'ont été celles du tabac. Ces trois mots ont des moteurs communs, selon ces experts, de puissants intérêts commerciaux, une réponse politique insuffisante et un manque de mobilisation de la société civile.
Bon, le ton est clairement donné, Rémi. Alors, que préconisent ces experts scientifiques?
Alors, si la cause est commune, ils préconisent que les solutions soient aussi communes. Tout d'abord, il faut dire que ces spécialistes viennent de l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, de l'université George Washington, aux États-Unis, et de l'ONG World Obesity Federation. Ils se sont réunis autour d'une publication commune en janvier 2019 dans la revue médicale britannique The Lancet. Et d'après eux, il faudrait diviser par deux la consommation mondiale de viande rouge et de sucre et doubler celle de fruits, légumes et noix. Issus des travaux de 43 experts de 14 pays, ce rapport enfonce le clou. Ces 20 dernières années, obésité, dénutrition et changement climatique ont été considérés séparément et la lenteur des réponses politiques est inacceptable.
Et alors cette publication, Rémi, elle est sérieuse?
Oui, ben, The Lancet, hein, dont le premier numéro est sorti en 1823, se définit comme un organe indépendant faisant autorité dans le monde de la médecine qui cherche à publier des essais cliniques de grande qualité, propres à modifier les pratiques médicales et à nous fournir une connaissance approfondie des principales disciplines médicales. Ça, c'est eux qui le disent. Cette revue prestigieuse est connue de tous les scientifiques du domaine de la santé et tous les journalistes spécialisés dans cette discipline.
Mais alors, selon eux, en quoi ces trois fléaux ont-ils des causes communes, Rémien ?
C'est-à-dire que ces trois phénomènes interagissent. Le système alimentaire est non seulement responsable des pandémies d'obésité et de dénutrition, mais génère aussi 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont ces spécialistes qui les disent. Ils pointent en particulier l'élevage de bétail. Autre interaction, nos systèmes de transport, dominés par la voiture, favorisent un mode de vie sédentaire, diminuant l'activité physique, tout en générant de 14 à 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, selon eux, les politiques agricoles, les modes de transport et l'urbanisation sont les différents maillons d'une même chaîne qui étrangle l'humanité et la planète.
Et ils s'attaquent là, effectivement, Rémi, à de gros morceaux, de gros lobbies planétaires.
Oui, pour les auteurs du rapport, les multinationales de l'alimentaire, désignées sous le nom de Big Food, doivent être encadrées de la même manière que celles du tabac. Ils proposent la création d'une convention cadre sur les systèmes alimentaires, calquée sur la convention cadre pour la lutte anti-tabac. Les points communs entre l'industrie de la malbouffe et celle du tabac sont les dégâts qu'elle provoque et le comportement des entreprises qui en tirent profit.
Et on peut d'ailleurs ajouter, vous m'avez soufflé les chiffres, Rémi, qu'en 2017, le secteur des boissons sucrées aux États-Unis a dépensé 50 millions de dollars en lobbying pour contrer des mesures destinées à diminuer la consommation de soda. La guerre va donc être rude entre les experts de la santé et les multinationales de l'alimentaire. Oui, puisqu'on peut effectivement parler de guerre en l'occurrence. Merci à vous, Rémi André. Allez, 6h44 sur Sud Radio. Dans un instant, Cécile Dominibus et Patrick Roger. Cela, eh bien, c'est hashtag on en parle sur Sud Radio. Et je vous donnerai des nouvelles de François Hollande. Bah oui, il donne des nouvelles de lui-même d'ailleurs. À tout de suite.
5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaize.
Et 6h47, c'est le rappel des titres sur Sud Radio. Jour J pour le pass vaccinal, il entre en vigueur aujourd'hui pour les plus de 16 ans. Il ne sera plus possible d'aller au cinéma, au restaurant ou encore au stade avec un simple test négatif. Il faut désormais un schéma vaccinal complet ou alors un certificat de rétablissement de moins de 6 mois. Une note d'espoir de la part de l'Organisation mondiale de la santé. L'Europe pourrait entrevoir la fin de la pandémie au printemps en cause de la vaccination, mais aussi le variant Omicron qui pourrait avoir contaminé et immunisé 60% de la population européenne d'ici le mois de mars. La tension continue de grimper entre les États-Unis et la Russie sur le dossier ukrainien. Washington ordonne l'évacuation des familles de ses diplomates à Kiev, estimant qu'une invasion russe peut, je cite, se produire à tout moment. Et puis le sport et la Ligue 1 de football. Ce score sans appel, 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain hier face à Reims, avec un doublé de Marco Verratti, un but de Sergio Ramos. Et puis le retour de Lionel Messi après un mois d'absence, lui qui était positif au Covid. Allez, dans un instant, Cécile Dominibus, c'est Patrick Roger, mais tout de suite, hashtag on en parle sur Sud Radio. La gauche, plus que jamais à la peine dans les sondages à 2 mois et demi du premier tour de la présidentielle. Toujours moins de 25% pour l'ensemble de ces 7 candidats. Heureusement, la gauche a peut-être trouvé son sauveur en la personne de François Hollande. Et oui, l'ancien président qui a tenu en tout cas des propos très énigmatiques dans un reportage diffusé hier soir sur France 3. Écoutez, il répondait à des lycéens.
Bah pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Je ne pense pas d'ailleurs. J'ai les mêmes idées qu'avant, donc je continue à les défendre. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle.
Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt?
Je vais en tout cas prendre la parole bientôt.
Ah oui, propos assez ambigu de la part de François Hollande qui laisse planer comme un doute et forcément, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Il fait un concours avec Manuel Valls, se demande d'ailleurs un internaute qui pointe du doigt les éternelles tentatives de retour de son ancien Premier ministre. Autre message sur Twitter, cette femme qui lance « Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Pour l'instant, il ne nous manquait plus que ça. » Et puis tenez, ce jeune qui réagit aussi en écrivant « Si je me réveille et que je vois François Hollande candidat, je ne vais pas en cours. » Bon, on peut le rassurer, cet étudiant ce matin à l'heure qu'il est, il pourra bien y aller. À son cours, François Hollande ira pas. En tout cas, sur son site internet, Le Figaro évoque un sondage secret dans lequel François Hollande n'était crédité que de 2% d'intention de vote, soit plus ou moins finalement le même score qu'Anne Hidalgo depuis quelques semaines pour le Parti Socialiste. Allez, 6h50 sur Sud Radio. Tout de suite, c'est l'heure d'accueillir Cécile Dominibus et Patrick Roger.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile Dominibus.
Et bonne bûche.
Bonjour. C'est Cécile Dominibus.
Pourquoi pas?
T'as la bûche.
Oui, mais c'est bien, pourquoi pas, j'adore.
On disait justement que le lundi, c'était toujours un peu plus compliqué. Bah voilà,
mais non,
voilà.
Mais c'est bien. Toujours le même nom, le même prénom, il faut que ça évolue un peu.
Oui, on le voit, en tout cas, vous êtes bien réveillés malgré tout.
Oui, ça va.
Nous sommes quel jour aujourd'hui? Lundi.
Nous sommes lundi.
Le 24. Le 24 janvier, décidément, ça file, évidemment, vers la fin du mois de janvier. Alors certains se disent, oh là là, mais de toute manière, avec ce temps qui n'est pas toujours terrible, évidemment, parce que les journées, le temps est bas, etc. Vivement des plus beaux jours.
Vivement le printemps. Ça sent le printemps quand même, les cigognes sont arrivées.
Ah bon?
Oui.
Vous avez vu une cigogne chez vous, dans votre jardin?
J'ai regardé la télé comme tout le monde, qui annonçait l'arrivée des cigognes.
Vous savez, il ne faut pas toujours croire ce que l'on voit.
Oui, mais c'est le journal de 13h, donc moi j'y crois.
Oh, bah, alors,
ça va, je plaisante.
Bon, allez, c'est l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Évidemment, pour les plus de 16 ans, ça fait grincer des dents beaucoup de personnes, y compris d'ailleurs les gens qui sont vaccinés, etc., qui ont leur dose, qui se disent, est-ce que vraiment c'est encore utile? Quoique, quand on regarde les chiffres, il y a toujours quand même énormément de contamination. Ça tombe comme des mouches. Cela dit, c'est quand même moins grave globalement qu'auparavant. Tout de même, donc, nous avons une question du jour sur ce sujet, Cécile.
Oui, sur le pass vaccinal, est-ce que vous trouvez ça inutile, justifié ou excluant? Pour l'instant, vous dites c'est inutile, 63%, et excluant, 33%. Le pass sanitaire, comme dit Flo, doit être absolument exclu, et il est le début du crédit social. Demain, le QR code servira à réguler vos comportements.
Voilà, vous continuez de voter, nous en parlerons tout au long de ce grand matin également, comme nous parlerons de l'union des droites. Est-ce qu'elle peut exister? C'est la question que nous posons et nous recevons tout à l'heure Jordan Bardella du Rassemblement National. Pourquoi cette union des droites possible, bah, c'est ce que demandent en fait certains, et ce qu'a encore proposé Éric Zemmour, qui a eu quelques ralliements ce week-end, vous l'avez vu, et pas des moindres quand même. Gilbert Collard, c'est l'une des personnalités du RN, même s'il n'était pas encarté. Là aussi, vous votez, et puis on en parle tout à l'heure donc avec notre invité et l'ensemble de nos chroniqueurs, Arlette Chabot, notamment à 7h40. Allez, à tout de suite.
Et Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.
Et proche des commerces, des artisans, des professions libérales, des entreprises, bien entendu, avec Jean-François Feuillette. Bonjour, bienvenue.
Bonjour à vous.
Vous êtes cofondateur et dirigeant de Feuillette, qui est une chaîne de boulangerie qui propose du salé et du sucré. Les boulangeries Feuillette, c'est de la gourmandise, ça on l'imagine bien, mais c'est aussi une atmosphère de maison de famille.
Alors absolument, on a créé avec avec mon ex-femme on était des passionnés de salon de thé. On est issus de l'apprentissage tous les deux. Moi j'ai fait un apprentissage à 16 ans et ça, on était un peu des rêveurs. On adorait se retrouver, trouver le petit salon cosy quand on travaillait à Paris tous les deux.
Aller dénicher comme on déniche des brocantes,
exactement,
c'est ça.
Exactement. Et on souhaitait vraiment recevoir nos clients comme à la maison, dans un esprit feu de cheminée, fauteuil club. Et on a décidé de créer vraiment dans cet univers de maison de famille un salon de thé qui nous permet vraiment de déguster les produits et les gâteaux et toutes les saveurs sucrées sur place. Ouais.
Alors c'est ce qu'on vient chercher chez vous, mais aussi on vient chercher chez vous le fait que vous produisiez, vous consommiez local, avec en l'occurrence des farines françaises. Est-ce que ça a un véritable impact finalement sur le client ?
Alors, de toute façon, là, chez Feuillette, toute la sélection des produits, on cherche vraiment tout ce qui est fruits, légumes, on source vraiment en local. Après, on a une exigence qualité sur les farines. Oui, alors nous, on n'utilise que de la farine de tradition française et des farines biologiques, ce qui nous permet d'avoir une exigence qualité. C'est vrai, quand on parle en ce moment, on a beaucoup le débat des Leclerc avec les baguettes à 29 centimes. On sait que dans les matières premières, vraiment, on peut trouver de tout. En plus, avec l'augmentation qu'on a en ce moment des matières premières, c'est vrai c'est important de sourcer vraiment, alors de plus en plus en local, et vraiment avoir une exigence qualité qui reste nécessaire pour la réussite d'une entreprise.
Ouais, vous parlez d'exigence qualité. En 2014, vous avez créé un laboratoire justement pour tout ce qui représente la technique chez vous dans les boulangeries. Et c'est cette excellence que vous voulez maîtriser justement pour vos produits.
Ouais, absolument. Parce qu'en fait, au début du développement, parce qu'aujourd'hui, Boulangerie Feuillette, c'est 45 magasins dans toute la France. On a essayé de diviser, on a essayé de monter, de faire nos pâtisseries dans chaque magasin. Et je me suis vite rendu compte qu'en divisant les compétences, j'y arriverais pas et j'arriverais pas à maintenir cette exigence qualité et produit. Donc c'est vrai qu'on a créé un laboratoire central sur Blois, et ce qui nous permet vraiment aujourd'hui de développer une gamme de pâtisseries artisanales qui soit vraiment de haute qualité. Je prends souvent l'exemple de mon Paris-Brest parce que je sélectionne une noisette du Piémont, je fabrique mon praliné, ce qui est, on va dire, allez, il y a moins d'1% des boulangers aujourd'hui qui arrivent à fabriquer leur praliné. Ça me permet vraiment d'avoir un goût unique sur ce produit-là, par exemple.
Et de maîtriser totalement les goûts. Vous, aujourd'hui, vous savez, il y a une crise de l'emploi dans certains secteurs comme la boulangerie. Est-ce que vous êtes, vous, épargné par cette pénurie ?
Alors non, complètement. On recrute aujourd'hui sur... Alors nous, le groupe Feuillette, c'est à peu près entre 1000 et 1100 personnes. On recrute aujourd'hui sur tout le réseau plus d'une centaine de personnes. Non, il y a réellement pénurie de main-d'œuvre et ça devient de plus en plus difficile. Alors déjà, de trouver des boulangers qui se lèvent à 3h du matin, c'est des métiers qui attirent peut-être un petit peu moins. Oui. On a plus de facilité à trouver des pâtissiers, mais c'est vrai que des boulangers, ça commence à être compliqué.
Merci beaucoup en tout cas, et puis rappelons que vous luttez aussi contre le gaspillage, qui est une bonne initiative. Merci Jean-François Feuillette d'avoir été avec nous, cofondateur et dirigeant de Feuillette, qui est une chaîne de boulangerie qui propose du salé et du sucré. Il y en a 45 en France. Bonne journée, c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.